VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 1er juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Togo, les premières élections municipales depuis 1987 ont été marquées hier par peu d'engouement.
Au Mali, trois villages de la commune de Wankoro, dans la région de Mopti, ont été attaqués hier par des chasseurs d'oiseaux.
Au Soudan, 7 personnes ont été tuées dans les manifestations massives d'hier.
Le président Donald Trump a été hier le premier locataire de la Maison Blanche à fouler le sol de la Corée du Nord.
Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN.
Pour l'instant, le journal.
Au Togo, les électeurs se sont rendus aux urnes hier pour leur première municipale depuis 32 ans, mais on n'a pas signalé une très forte affluence dans les bureaux de vote, de Lomé, correspondance de Kay Lawson.
Les électeurs togolais ne se sont pas bousculés devant les bureaux de vote ce dimanche pour élire leurs conseils municipaux. À Lomé, des irrégularités ont été recensées. Mais globalement, le scrutin s'est bien déroulé. Des organisations de la société civile ont dénoncé la non-accréditation de leurs observateurs par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Environ 3000 observateurs locaux n'ont pas pu être déployés à dénoncer la Commission épiscopale Justice et Paix. Notons que le scrutin a été reporté à une date ultérieure dans deux communes à l'intérieur du pays pour des raisons techniques selon la CENI. Ce scrutin est d'une importance capitale pour les partis politiques qui ont boycotté les législatives du 20 décembre dernier, mais aussi pour la majorité présidentielle. Ces locales sont perçues comme un test pour jauger leur représentativité. Par ces élections locales, les Togolais élisent 1527 conseillers municipaux pour pouvoir aux 117 communes du pays. Kayla Sol, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, des chasseurs d'oiseaux ont attaqué hier trois villages dans la commune de Wankoro, cercle de Bankasse, région de Mopti. Aucun bilan n'était disponible dans la soirée, mais selon le maire de Wankoro, on compte des femmes et des enfants parmi les morts, et des greniers ainsi que des maisons ont été brûlées. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Hier vers 14h, les habitants de la commune de Wankoro, dans le cercle de Bankasse, région de Mopti, ont alerté les autorités parce qu'il y avait des mouvements des groupes chasseurs dans leur localité. Haruna Sankaré, maire de la commune de Wankoro.
Les villageois nous ont d'abord alerté en nous disant qu'ils ont aperçu des chasseurs qui sont rentrés dans le village de Saran. Et quand ils sont rentrés dans le village de Saran, avant qu'ils commencent leur attaque, nous avons alerté l'armée et notre tutelle qui est la préfecture de Bankasse. C'est dans les environs de 16 heures que les chasseurs ont commencé donc, leur massacre. Ils ont tué plusieurs civils, dont des femmes et des enfants. Pour le moment, nous n'avons pas le bilan.
Les mêmes chasseurs ont attaqué un deuxième village du nom de Bidi, puis un troisième du nom de Sarankoro dans la même commune.
Vous savez, le village de Bidi qui a été attaqué, c'est après la sortie des militaires que les chasseurs sont rentrés encore dans le village. Ils ont lié, ils ont incendié toutes les maisons. C'est un autre village qui a été attaque en cours des chasseurs dans ce village de Sankoro. Pour le moment, l'armée s'est repliée à Wankoro.
Il faut signaler qu'avant les attaques contre ces trois villages, le troisième adjoint au maire de la commune de Wankoro avait été enlevé il y a une semaine. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, un mort, des blessés et des dégâts matériels enregistrés hier lors d'une marche de l'opposition. À l'appel de la coalition Lamouka, quelques manifestants ont accompagné Martin Fayoulou dans la rue pour réclamer ce qu'ils ont appelé la vérité des urnes, ainsi que la réhabilitation des députés de l'opposition invalidés par la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec Thierry Kambundi de Top Congo FM à Kinshasa.
Au Soudan, 7 personnes ont été tuées hier et 181 autres blessées, dont 27 par balle, lors des manifestations massives pour réclamer aux militaires un transfert du pouvoir aux civils. La contestation ayant réussi, selon l'agence de presse officielle, le pari de la mobilisation malgré le déploiement des forces de l'ordre. Les rassemblements de dimanche étaient les plus importants depuis la dispersion le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée dans la capitale, un drame qui avait fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international.
En Algérie, un héros de la guerre d'indépendance a été arrêté à Alger et placé en détention. Depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, Lakhdar Bourega, qui a 86 ans, est resté très critique des autorités actuelles. Il est poursuivi pour outrage à corps constitué et atteinte au moral de l'armée. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.
Le ministère turc des Affaires étrangères affirme que si de ses ressortissants sont retenus en Libye par des forces proches du maréchal Khalifa Haftar et appelle à leur libération immédiate. Le point avec Idriss Fall.
La détention de 6 de nos concitoyens par des milices illégales liées à Haftar est un acte de violence et de piraterie. Nous nous attendons à ce que nos concitoyens soient libérés immédiatement, a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères, ajoutant que si cela n'arrive pas, les forces de Haftar deviendront des cibles légitimes. Les forces du gouvernement de Tripoli, reconnues par l'ONU, ont repris la ville de Garian, qui servait de base d'approvisionnement aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux, le maréchal Haftar a ordonné à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts turcs, d'interdire les vols depuis et vers la Turquie et d'arrêter les ressortissants turcs en Libye, avait annoncé vendredi son porte-parole, le général Ahmad Al-Mesmari. Hier, le ministère turc de la Défense a répondu sèchement dans un communiqué disant qu'il y aura un prix très élevé à payer à toute attitude hostile.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Voulez-vous que je franchisse la ligne? J'en serais très honoré. Par ces mots, le président américain Donald Trump et le leader Kim Jong-un ont accompli hier un geste hautement symbolique, inattendu et historique. De nouveau, Idriss Fall.
Donald Trump, en franchissant hier la frontière la plus hermétique du monde, a écrit une page d'histoire en compagnie de celui qu'il appelle son ami nord-coréen. Jamais un président américain en exercice n'avait foulé le sol nord-coréen. Pour ce faire, le village de Panmunjom, où fut signé en 1953 l'armistice, a été choisi pour cette troisième rencontre entre les deux hommes. Donald Trump, arrivé à pied de la Corée du Sud, a franchi la ligne de démarcation quelques secondes avant Kim Jong-un, une poignée de main, quelques propos et Donald Trump marchera seul sur le dallage en béton pour entrer en Corée du Nord. Puis, les deux hommes se retirent pour un tête-à-tête de près d'une heure. Les photographes et caméramans qui accompagnent le président américain sont restés au sud et sont furieux car n'ont pas pu prendre la photo de ce moment historique. Retournant au sud, Donald Trump a murmuré quelque chose à l'oreille du Nord-Coréen qui a éclaté de rire. C'était un air d'improvisation très éloigné des deux précédents sommets à Singapour et à Hanoï.
En Afghanistan, une attaque à la voiture piégée a secoué tôt ce matin un quartier du centre de Kaboul, faisant des dizaines de blessés, selon un premier bilan communiqué par les autorités. Après l'explosion de la voiture, plusieurs assaillants ont attaqué un bâtiment. La zone est bouclée par les forces spéciales de police, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur.
À Hong Kong, des manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin ont tenté aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la rétrocession à la Chine, de pénétrer dans le parlement local en brisant des vitres alors que la police répondait par des gaz lacrymogènes. Selon des journalistes de l'AFP, la police anti-émeute a été vue aussi à l'intérieur du bâtiment qui a été au centre des récentes manifestations contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la CAN présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal de la CAN. C'est un dernier match de la phase de poule aux alus de finale dans le groupe D. La Côte d'Ivoire voudra arracher son ticket pour les huitièmes de finale devant la Namibie. Défait par le Maroc 1-0 lors de la deuxième journée, les éléphants comptent 3 points, soit autant que l'Afrique du Sud. Une victoire les ferait terminer parmi les deux premiers et le sélectionneur de la Côte d'Ivoire se dit conscient de l'enjeu. Ibrahim Camara.
Il n'y a pas 150 façons d'aborder le match de Namibie. On sait quels sont les enjeux. Forcément, déjà, on va donner beaucoup de fraîcheur et faire en sorte que le match, le gagne. Il va falloir que les garçons ils se remettent très vite en question, c'est un peu l'objectif, on en a parlé. Et deuxièmement, il faut amener des changements.
Les éléphants regorgent de joueurs de qualité, dont l'avant-centre Nicolas Pépé, phénoménal cette saison avec son club français de Lille, mais pas très en vue dans les deux précédents matchs de sa sélection. Son coach a une explication.
C'est vrai qu'on attend beaucoup de Nicolas Pépé, et surtout les observateurs. Et, comme je le disais, il faut oublier que Nicolas, il n'a pas plus de 12 sélections. Nicolas ne connaît pas absolument les compétitions africaines comme la CAN qui sont assez difficiles. Donc c'est une découverte pour lui. Il apprend aussi. Je pense qu'il faut lui laisser faire son trou. Il est connu en Europe, mais sur les échiquiers africains, Nicolas, vous avez vu sur les deux premiers matchs. Et il est en train de savoir ce que c'est que la CAN.
Ibrahim Camara, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Dans l'autre match du groupe B, le Maroc déjà qualifié fera face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud qui pourrait se propulser en huitième de finale en cas de victoire. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 16h, temps universel. Dans la poule C aussi, il y a une finale entre le Sénégal et le Kenya qui comptabilise chacun 3 points et qui s'affrontent ce soir. Un match nul suffira au Sénégal pour poursuivre son parcours, mais la défaite face à l'Algérie reste difficile à digérer chez les fans des Lions de la Teranga et le coach n'a pas échappé aux critiques, même s'il dit être imperturbable. Aliou Cissé.
Moi, je ne suis pas du genre à tout remettre en cause en 4 jours. Je suis quelqu'un de très équilibré. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une révolution en l'espace de 4 mois. 4 jours, pardon. On a joué contre la Tanzanie, ça avait très très bien fonctionné. C'était pratiquement la même équipe qui était là. Contre l'Algérie, effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais cela ne peut pas dire qu'il faut tout remettre en cause.
En face, les Kenyans y croient.
On a notre destin en main. Voilà, c'est à nous d'aller puiser des forces que l'on ne soupçonnait pas exister chez nous et pour pouvoir s'en sortir exister. On l'a fait en phase de qualification contre le Ghana. Est-ce qu'on est capable de le reproduire face au Sénégal? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais j'espère que, en tout cas, les garçons prendront conscience qu'il faut qu'on donne tout. Parce qu'on ne sait pas quand on reviendra dans ce type de compétition quand on est le Kenya.
C'était le sélectionneur du Kenya, Sébastien Millet, qui a aussi ajouté que le Sénégal n'est pas fort mentalement, de quoi irriter son homologue. L'homologue sénégalais qui lui a répondu. Aliou Cissé.
Je pense que souvent mes homologues ont tendance à parler de nous, de leur équipe. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On est numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur les 5 continentales. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là.
Sénégal-Kenya, c'est à 19h temps universel. À la même heure, l'Algérie déjà qualifiée fera face à la Tanzanie. Madagascar poursuit son compte de fait, obligé de passer par un tour préliminaire avant même les qualifications. Voilà les barrières en huitième de finale de la CAN à leur première participation, avec en prime la première place du groupe B après leur victoire 2-0 devant les Super Eagles hier. Le sélectionneur de Madagascar s'en félicite, Nicolas Dupuis.
On a été sérieux, d'abord je tiens à féliciter mes joueurs, parce qu'on a été sérieux, on a été organisé. On a su faire le dos rond quand on était un petit peu en difficulté. On a montré une belle organisation défensive, on a bénéficié d'une erreur de leur part pour marquer le premier but, mais on était venu pour faire match nul et ça nous a aidé. Donc franchement très fier de mes joueurs parce que très appliqués, toutes les consignes ont été respectées et ils ont été très grands aujourd'hui. Mais en football, c'est ce que j'ai dit, tout est possible tout le temps. C'est le seul sport collectif où il peut y avoir des surprises, là il y en a eu une, mais c'est pas une surprise qui est venue de nulle part, c'est quelque chose qu'on a construit. Donc on a été, je pense, un peu meilleur que le Nigeria aujourd'hui.
Le Nigeria avait déjà validé son ticket pour le prochain tour dès la deuxième journée de poule. Toujours dans ce groupe B, la Guinée a fini à la troisième place avec 4 points grâce à sa victoire 2-0 sur le Burundi qui a concédé sa troisième défaite en autant de sorties. Conséquence, les Hirondelles sont éliminées de la compétition. Dans la poule A, l'Égypte victorieuse de l'Ouganda 2-0 a réussi le carton plein avec 3 victoires en 3 matchs pour terminer avec 9 points en tête du groupe A, loin devant sa victime d'hier, l'Ouganda qui totalise 4 points et qui l'accompagnera en 8e de finale. Dans l'autre match du groupe B, les Léopards de la RDC se sont réveillés et ont atomisé le Zimbabwe 4-0. Les protégés de Florent Ibenge se donnent ainsi un mince espoir d'être repêchés parmi les 4 meilleurs 3e pour disputer le 8e de finale. Les carottes sont par contre bien cuites pour les Zimbabwéens qui quittent le tournoi avec un seul point. C'est tout pour le journal de la CAN.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, donc, un mort, des blessés et des dégâts matériels enregistrés hier lors d'une marche de l'opposition. À l'appel de la coalition Lamuka, quelques manifestants ont accompagné Martin Fayulu dans la rue pour réclamer ce qu'ils ont appelé la vérité des urnes ainsi que la réhabilitation des députés de l'opposition invalidés par la Cour constitutionnelle. Mais cette marche interdite par les autorités a été empêchée par la police. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Hier, il était avec nous, il marchait avec nous, on subissait ça avec lui, et aujourd'hui, il nous fait subir. Mais Dieu est grand, le peuple ici est déterminé à ce que M. Kabila puisse partir.
Déçu et énervé de n'avoir pas pu marcher comme il l'avait prévu, l'opposant Martin Fayulu s'en est pris au président de la République, Félix Tshisekedi, et à l'ancien président Joseph Kabila.
Si M. Kabila a pris ce masque qui est Félix Tshisekedi, et que Félix Tshisekedi accepte d'être la marionnette de Kabila, nous n'acceptons pas ça. Kabila doit définitivement partir. Il a pris ce pays en otage avec tous ceux qui professent illicitement de ce pays.
Martin Fayulu, qui a par ailleurs condamné la violence avec laquelle la police a dispersé la manifestation de Lamuka, a accusé cette dernière d'avoir troué les pneus de son véhicule. Un militant de l'opposition dit son désarroi.
La police est venue envahir, prendre nos militants, les mettre par terre, les chaussures, mais la police a finalement compris que, écoutez, nous sommes à une journée commémorative de notre indépendance et que nous, à l'opposition, nous avions écrit, nous avions informé, c'était tout.
La police nationale, qui avait promis de disperser toute manifestation non autorisée par les autorités, a de son côté accusé les militants de Lamuka de provocation. Son porte-parole, le colonel Piero Mwanamputu, confirme qu'un manifestant est décédé par balle à Goma, au Nord Kivu.
Dans le Nord Kivu, précisément à Goma, des sympathisants se réclamant à tenir à la plateforme Lamuka avait posé des barricades en flammes tout ce matin sur plusieurs axes. La police a procédé à l'évacuation de ces barricades sous l'interposition des militants Lamuka qui les ont accueillis avec le jet des projectiles de Kaïssa Bonama. Les forces de l'ordre ont fini par disperser les photos des troupes. Et mon titre de bilan provisoire du côté de la police nationale, il y a le commandant du commissariat urbain de Karisimbi qui a été grièvement blessé des suites de projectiles lancés par les manifestants. Et dans cette confusion généralisée, les photos des troubles ont emporté son revolver. Côté des manifestants, l'on signale une personne qui est grièvement blessée a été acheminée à l'hôpital CBCA Virunga qui vient de succomber de suite de ses blessures par balle.
Un dimanche de 30 juin, fête de l'indépendance de la RDC, agitée dans quelques villes de la RDC, qui s'est tout de même clôturée par des scènes de liesse dans la capitale après la large victoire à la Coupe d'Afrique des Nations des Léopards de la RDC 4-0 devant les Warriors du Zimbabwe. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Accord pour le rapatriement des réfugiés centrafricains au Cameroun. Cet accord a été signé ce week-end à Yaoundé entre le Cameroun, la République centrafricaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le dit accord concerne exclusivement les candidats au rapatriement librement consenti. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les négociations pour le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant au Cameroun ont duré 2 ans. À la demande des gouvernements camerounais et centrafricains, les premiers retours volontaires sont envisagés d'après l'accord tripartite signé le 29 juin dernier.
L'accord est l'acte juridique qui va encadrer le retour de ceux qui se seront librement et volontairement déterminés à rentrer dans leur zone d'origine.
Kale Bouti, représentant du HCR en RCA.
En juillet 2018, une enquête portant sur les intentions de retour menées dans les régions de l'Est, l'Adamawa et du Nord du Cameroun révélait qu'environ 20% de la communauté des réfugiés résidant dans ce que nous appelons façade Est du Cameroun, c'est-à-dire région Est, Adamawa Enor étaient favorables au retour au moment de l'enquête.
Selon les chiffres datant de juin 2019 fournis par le HCR, ce processus de rapatriement volontaire concerne 5546 réfugiés centrafricains, un chiffre largement inférieur au nombre de réfugiés centrafricains au Cameroun. Ils sont plus de 470 000 à vivre dans trois régions du pays, l'Est, l'Adamawa et le Nord.
Ceux qui veulent encore rester pour bénéficier de notre hospitalité légendaire, il n'y a pas de problème.
Pour la Tanganyi, ministre de l'administration territoriale du Cameroun.
D'après les instructions du chef d'État, le président Paul Biya, mais ceux qui veulent rentrer, ils vont rentrer volontairement et ils auront donc la possibilité de commencer une vie nouvelle dans un pays que je crois est en train de se stabiliser.
Les conditions de retour paisibles ont été garanties par la partie centrafricaine, Virginie Baïkwa, ministre centrafricaine de l'action humanitaire et de la réconciliation nationale.
Ceux qui veulent rentrer vont rentrer dans la dignité. On va respecter les conditions de retour exigées par les conventions signées par la République centrafricaine. La cérémonie de ce jour marque un départ heureux pour nos compatriotes réfugiés au Cameroun.
D'après une enquête du HCR, les réfugiés centrafricains vivant au Cameroun ont conditionné leurs intentions de retour par le fonctionnement définitif des organes administratifs, le renforcement des dispositifs de maintien de l'ordre et des sécurités dans les zones d'origine, l'accès à la terre et les programmes d'accompagnement par les autorités de leur pays pour la relance de leurs activités. Pour l'heure, la date du rapatriement effectif n'est pas encore connue. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À Abuja, au Nigeria, s'est tenu pendant le week-end le 55e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Parmi les sujets débattus, la création de la monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO. Les participants ont confirmé le nom de la future monnaie ouest-africaine, l'ECO, et décidé de son symbole. Les détails avec Gilbert Tamba.
La création de l'union monétaire de la CEDEAO était sans doute la décision la plus attendue à ce sommet auquel 13 dirigeants de la sous-région ont participé. Déjà lors d'une réunion tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire entre les 17 et 18 juin dernier, les ministres et gouverneurs de la Banque centrale avaient tracé les grandes lignes de la future monnaie. Ce projet en cours depuis 15 ans devrait aboutir en 2020 si toutes les conditions sont remplies. Obidia Mailafia est économiste et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale du Nigeria.
Nous, en Afrique de l'Ouest, nous voulons avoir le contrôle de notre propre monnaie. Nous voulons une économie intégrée, nous voulons une monnaie unique, parce qu'une monnaie unique pour près de 400 millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest voudra dire un taux de change fort et un pouvoir d'achat fort.
And a strong purchasing power.
La nouvelle monnaie devrait s'appeler ECO et le modèle de la future banque centrale devrait aussi être fédéral avec un régime d'échange flexible en principe. Le commissaire chargé de la politique macroéconomique et de la recherche à la CEDEAO, Kofi Aprakou.
And we'll have branches in member states.
Et nous aurons des branches dans les États membres. En d'autres termes, c'est comme si vous aviez une banque centrale de la CEDEAO, mais les États disposeront aussi de leur banque centrale qui travailleront en collaboration avec la Banque centrale fédérale de la CEDEAO. Ces banques auront ensuite la responsabilité d'exécuter la politique monétaire. Les décisions et les stratégies seront appliquées par la Banque centrale de la CEDEAO.
Les Nigériens dans les rues d'Abuja sont en majorité d'accord pour la création de la monnaie de la CEDEAO.
Pour moi, c'est un geste positif. Si cela rassemble l'Afrique, je pense qu'il y aura beaucoup de bénéfices en faisant cela. Ça sera aussi facile pour les populations de la région de se rendre partout dans la région, faire tout ce qu'on veut faire légalement.
Moi, je suis homme d'affaires. Souvent, je me rends à Cotonou, au Togo et en Côte d'Ivoire. Donc, si l'Afrique de l'Ouest a une monnaie unique, il n'y aura plus besoin de faire de change ou de perdre votre temps, voire même parfois les gens peuvent voler votre argent dans le processus.
Le président nigérien Issoufou Mahamadou a été élu par ses pairs ouest-africains pour présider pour un an l'organisation régionale en remplacement de son homologue nigérien Mohamedou Buhari qui a dirigé l'organe pendant 11 mois. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Wolfgang, en Autriche, s'est tenu ce week-end Jamtan Festival, un festival organisé par un Burkinabé pour promouvoir la culture non seulement de son pays, mais aussi des autres nations africaines. Pour la cinquième année consécutive, c'est un pari gagné pour les organisateurs, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, qui s'est rendu en Autriche à l'occasion de ce festival.
Jamtan Festival à Wolfgang. Nous sommes dans le centre de l'Autriche, à quelques 3 heures de Vienne, la capitale. Au bord d'une plage, l'Afrique magnifie à travers sa musique, mais aussi ses produits de l'artisanat. Absatou Diko est une exposante venue du Burkina Faso.
C'est beaucoup d'objets d'art africains, surtout peul. Il y a des vins qu'on a amenés, qu'on peut utiliser comme des dessous de plats, de verre. Les tenues peul faites à base de façon d'amphanie et de coco d'onda. Il y a les chaussures en cuir.
Sur la piste de danse, Dorothée Kranaputoche, une festivalière autrichienne.
Ça inspire, ça rend heureux. J'aime bien la musique de toutes les cultures. Ça m'a toujours plu, la musique africaine. Ça donne envie de danser, c'est ça.
Régis Bationou est un Burkinabé vivant en Autriche.
Pour moi, c'est une opportunité pour l'Afrique de montrer tout son savoir-faire, son savoir-être, qui est aussi culturel, et son savoir-avoir, qui est également culturel. C'est une aubaine d'être là pour témoigner la culture africaine, et nous en sommes évidemment fiers.
Jamtan Festival est une façon de présenter l'image de l'Afrique. Adama Diko est l'un des organisateurs du festival.
C'est important de faire culture de l'Afrique ici, parce que quand on parle de l'Afrique tout le temps, quand on voit l'Afrique dans des journaux, spécialement en Europe, c'est des aspects négatifs. Nous, on a choisi cette filière-là pour montrer l'Afrique côté positif, des Africains qui jouent la musique, des Africains qui dansent, des Autrichiens qui jouent avec les Africains. Tous ensemble, nous faisons une bonne équipe du meilleur monde pour les enfants de demain. Et nous avons des millions de cultures. Nous pouvons transporter cette culture et amener l'Afrique très, très, très loin.
Des Africains qui restent convaincus que la culture reste une arme qui va défendre l'Afrique au Conseil des Nations. Après 5 éditions, les organisateurs donnent rendez-vous en 2020 à la 6e édition. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Wolfgang, Autriche.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends seront courtes, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.